plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, P comme Paulet, Jean-Daniel Paulet, cinéaste et poète, avec Jean-Paul Fargier, Vanessa Nicolazic et Mathieu Macheret. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Il est cinéaste, il n'a vécu que pour faire des films, toujours un de plus, envers et contre toutes circonstances, écrivait Jean-Daniel Paulet peu avant sa mort en 2004. Cinéaste, oui, envers et contre tout, un des plus singuliers du cinéma français moderne, contemporain de la nouvelle vague sans y avoir jamais appartenu, inventeur mélancolique et burlesque et expérimentateur insolite, il a concilié par d'envoûtants mouvements d'appareil à coups de collages inouïs et de répétitions jamais répétitives, deux approches a priori inconciliables, car son cinéma, comme ses travelling, circulait par des chemins de traverse sur deux rails, celui des comédies d'Où sa mère, la saga Léon, dans le prolongement du cinéma populaire des années 30, et celle du film essai, où la limpidité du plan et la scansion d'un montage mélopé réinventaient le cinéma comme pur langage poétique. Je suis ambidextre, ma main gauche me conduit vers un travail abstrait, alors que ma main droite me tire du côté réaliste, écrivait aussi celui qui oscillait de l'un à l'autre comme Sid Charisse et Fred Astaire passaient insensiblement de la marche à la danse dans Tous en scène. Resté longtemps un secret jalousement gardé entre cinéphiles, riche de 18 longs métrages, de 18 courts, de quelques films perdus et tant d'autres qui n'auront jamais été réalisés, l'œuvre restaurée du cinéaste qui aura tant filmé les ruines se déploie aujourd'hui de rétrospectives de cinémathèques en ressorties en salle, d'édition DVD en publication de livres. Pour nous guider dans cette œuvre du contre-temps et à contre-courant, deux éminents paulétiens, son vieux complice, le critique théoricien et vidéaste Jean-Paul Fargier, dont sort ces jours-ci La vie retrouvée de Jean-Daniel Paulet, autobiographie posthume dont il est le ghostwriter pour ne pas dire le médium, et la chercheuse Vanessa Nicolazic, qui, après avoir classé le fond du cinéaste déposé à la Cinémathèque de Toulouse, a consacré un mémoire à la genèse du processus d'écriture d'un de ses derniers films, ceux d'En face. Sans oublier l'acrobate Mathieu Macheret qui, en fin d'émission, nous parlera d'un autre artiste et poète, le portugais Pedro Costa, hommagé au Festival Cinéma du Réel. Mais pour l'heure, direction les bords de Marne, histoire de guincher un peu pour mieux oublier l'ennui du dimanche. En 1958, Jean-Daniel Paulet, jeune homme, a réussi à éviter de partir en Algérie grâce à une chute d'échelle. Il remplit ses devoirs militaires au service cinématographique des armées. Et qu'est-ce qu'il fait le dimanche? Eh bien, pendant de nombreux mois, il va filmer la jeunesse ouvrière qui trompe son ennui dominical dans les bals populaires. La musique qu'on entend ici est de Claude Bouling. Le film s'appelle Pourvu qu'on ait l'ivresse. Et ceux qu'on voit danser, ce sont des corps qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma, du moins en France. France à l'époque, une population mélangée, largement issue de l'immigration, notamment maghrébine. Je rappelle qu'on est en pleine guerre d'Algérie. C'est un premier geste cinématographique qui fait immédiatement repérer son auteur. Il reçoit à Venise un Lion d'or du court-métrage à scénario, ce qui est déjà assez étonnant quand on voit le film. Il y a notamment un article très laudateur d'un jeune critique, bientôt cinéaste, qui est François Truffaut, qui voit en lui un des 4 ou 5 grands cinéastes français de demain. On imagine la pression un peu que ça peut faire sur les épaules de ce jeune homme. Il faut rappeler peut-être Jean-Paul Fargier que Jean-Daniel Paulet est alors un cinéaste complètement autodidacte, mais qui a des modèle très solide quand même. Il va vénérer, je sais pas, Ford, Dreyer, Chaplin. Il s'embarque pas complètement seul dans son cinéma.
Oui. Et donc, il veut faire des films. Il a déjà essayé de filmer sur ses lieux de vacances où ses parents ont une villa en face de Saint-Tropez. Donc, il a filmé des gens qui passaient comme ça sur la plage. Parce qu'il est, tout de suite, il veut filmer lui-même, quoi. Donc. Là, le film qu'il va faire pendant son service militaire au service cinématographique des armées, il dit bah, qu'est-ce qu'on peut faire le dimanche avec une caméra qu'on détourne de l'armée. Il cherche et puis il dit bon, les bords de Marne, les guinguettes, voilà. Donc et surtout dans ce film, ça aurait pu être un film néo-réaliste sur un milieu des gens qui dansent. Voilà, une étude comme ça de relations, de micro-événements entre beaucoup de personnages. Il y en a beaucoup parce qu'il y a déjà deux lignes dans ce film. Parce qu'au bout d'un moment, il découvre dans les rushs un type là. Il dit, mais oh, ce type c'est formidable, comment j'ai fait pour pas le voir dans la salle de bal? Et il crève l'écran. Et après, il cherche à le retrouver. Il fait des photos des rushs de Claude Melki, qui après il va prendre son nom. C'est lui, c'est Claude Melki qui va être son acteur dans beaucoup d'autres films. Et il distribue aux gens de la guinguette. Si vous le savez qui c'est, dites-moi. Et il vient tous les dimanches. Et un jour, finalement, il se retrouve, il le trouve. Et à partir de là, il écrit un scénario. Parce que avant c'était impressionniste. Mais là, il invente des gestes. Moi, je cherchais s'il y avait le plan où il a découvert. Mais je pense qu'il n'y est plus. Ça lui a permis de le découvrir.
Eh ben, peut-être que ça, Vanessa Nicolasic l'a retrouvé dans les archives. Non, mais ce qui est très passionnant, c'est que dès ce premier film, on va quand même s'installer des thématiques. Non seulement cette exploration des deux voies, celle de la fiction et du documentaire, mais aussi une relation à l'espace, il me semble. Il y a le centre, la piste de danse, et puis il y a ceux qui sont à la marge. Et celui qui est à la marge et qui va essayer d'aller au centre, c'est Claude Melki.
C'est déjà une histoire de regard en fait, ce film, parce qu'il se met dans la position de ses observateurs. Donc il y a Claude Melki, puis il a des compères qui observent ces gens. Ils sont en marge et ils sont assis et ils aimeraient participer à ce bal. Alors certains le font, puis Claude, enfin Léon, il ne s'appelle pas encore Léon, parce que c'est un film muet, mais c'est un film extrêmement musical qui fonctionne sur des sans arrêt des raccords regards et des raccords de pulsations. C'est magnifiquement monté. Sur les différentes musiques, hein, des collages très très beaux. Donc oui, je trouve que c'est déjà un film de regard en fait, qui travaille cet espace clos, parce que tout se passe chez Max, enfin, dans cette guinguette. On n'en sort jamais, mais en même temps, il nous plonge par moments. Alors on a deux positions, quoi. On est en observation un peu à distance.
Ça commence par le regard que cet acteur se jette à lui-même, parce que le premier plan, c'est il est en train de se repeigner. Exactement. Dans les toilettes, donc c'est un regard à lui-même. Et après il sort des toilettes et il va dans la salle qui est presque vide, et petit à petit ça va augmenter, mais c'est vrai, ce regard, c'est...
Et ça s'achève par son regard une fois qu'il a ôté le masque dans la glace, parce qu'il finit par pouvoir...
draguer, mais sous un masque.
Sous un masque, le masque que tout le monde porte, parce qu'il y a un bal masqué. C'est assez fort aussi comme geste.
Et c'est une trouvaille. Moi, je le décris comme un inventeur. Chaque film, il fait des inventions. Et là, son invention, c'est Melki. Il découvre un corps.
Et on va le retrouver, Claude Melki, avec le succès de ce film, avec tous ces articles laudateurs. On aurait pu penser que Paulet aurait été un des premiers à partir sur la vague nouvelle. Le film qu'il va essayer de faire ensuite, un long métrage, ça ne va pas marcher. Il va pour des
tas
de raisons.
Mais il est très bien.
Mais peut-être que, heureusement, son film n'a pas eu de succès. Il a été obligé, encore une fois, d'inventer quelque chose.
Cela continue donc depuis des milliers d'années. On est pris dans ce théâtre de milliers d'années. On est dans ce travail millénaire, incessant. L'une après l'autre. Les pièces du jeu sont reprises. Elles seront relancées. Autres et les mêmes. De la même façon et différemment. Tandis que très haut, échappant au jeu, on dirait qu'un silence massif indique le nord. Rien n'est fermé, bien sûr, dans ce glissement sourd.
Même au son, on entend qu'il y a du montage dans ce film, c'est Méditerranée en 1963, et c'est la voix de Philippe Solers qu'on entend. Ah, c'est pas la voix de Philippe Solers. Alors, c'est le texte de Philippe Solers.
C'est le texte de Philippe Solers, mais c'est la voix, on sait pas le nom. C'est un avocat, un copain à Jean-Daniel Paulet, qui est venu, entre deux plaidoiries, enregistrer ce texte d'un seul trait.
Voilà, encore un mystère qu'on élucidera peut-être un jour. Qui est l'avocat qui dit ce texte? Bon, c'est Méditerranée, tournage légendaire, je sais pas, c'est 2 ans pour parcourir, faire le tour de toute
non,
la
non,
Méditerranée.
7 mois.
7 mois, bah, décidément.
Non, mais il y a beaucoup de légendes. Ça, lui-même aussi a amplifié les choses. Mais...
C'est bien Volker Schlöndorff qui l'accompagne.
Là, ça, c'est sûr.
D'accord, pas encore réalisateur, qui va être l'assistant de choc, qui va lui faire traverser les frontières. Et la musique, elle est bien Antoine Duhamel.
Oui.
On est d'accord, Jean-Paul Fargier. Ce qui est très drôle avec ce film, c'est que Philippe Solers et Antoine Duhamel, chacun critique l'apport de l'autre. Antoine Duhamel montre le film sans le texte de Solers. Et j'imagine, réciproquement, c'est évidemment Jean-Daniel Paulet qui revient le mérite d'avoir allié tout ça sur ces images qui sont très simples, finalement, très peu nombreuses. Je crois qu'il doit y avoir une 50aine de plans. Vous qui avez étudié très longuement, vous me donnerez peut-être le nombre exact, Jean-Paul Fargier, des plans qui font retour sans cesse, qui ne sont jamais les même en même temps, il invente quelque chose qui va marquer énormément ses contemporains, jusqu'à Godard, hein, qui va en réutiliser des plans dans Film Socialisme. Alors, qui dira, et vous allez m'expliquer ce que veut dire Godard par là pour expliquer Paulet, dans un film qui s'appelle JDP par JLG, Godard va dire « Paulet a commencé par où je finis ».
On pourrait dire le contraire.
C'est-à-dire, il finit par le montage. L'idée, je crois, ce que veut dire Godard, c'est que d'abord on tourne, après, on monte et c'est là qu'on trouve le film.
C'est pour ça que c'est dur de vouloir recomposer le film comme s'il découlait d'une seule idée, comme ça, et qu'il n'y avait qu'une application. Il efface aussi tous ses doutes, ses repentirs. Il cherche, et puis un jour, la forme apparaît. Et là, par exemple, sur Méditerranée, une fois qu'il passe au montage avec les plans qu'il a tournés avec Schlöndorff dans plusieurs pays, mais pas tellement de pays finalement autour de la Méditerranée. Et quand il passe au montage, il essaye de monter, il lui faut un texte, il prend des textes de bataille, et puis il s'aperçoit que ça marche pas. Et puis sa petite amie, Sarah Georges Picot, lui dit « Mais je connais quelqu'un, un jeune écrivain, là, tu devrais... » Voilà. Il fait appel à Solers, mais qu'il connaissait déjà parce qu'il était dans la bande Huguenin. Il faut dire que Paulet a fait, avant de faire du cinéma, il a fait Sciences Po. Et à Sciences Po, il avait deux grands amis, c'était Jean-René Huguenin, brillant écrivain qui s'est tué en voiture, et Pierre-André Boutan, grand producteur de télévision.
Sur la 7, puis sur
voilà.
Arte.
Et c'est Solaire qui va trouver les phrases qui ont complètement propulsé ce film, parce qu'il en lit le fonctionnement dans le montage, la répétition et tout ça.
Mais ce qui est très intéressant, c'est que Paulet, ce sera toujours le cas après, se sert du texte comme d'une image, il me semble. En tout cas, il va la monter, ça va pas être un commentaire du texte, il va lui-même s'en servir comme matière. Qu'est-ce qu'on sait sur le processus de fabrication de ce film, Vanessa Nicolasic? Vous qui avez fouillé et classé toutes les archives de
Jean-Daniel Paulet. Ça reste une énigme parce que, en fait, voilà, il faut quand même savoir que sur le fond d'archives Paulet à la Cinémathèque de Toulouse, les premiers films, donc de Pourvu qu'on ait l'ivresse, je dirais jusqu'à même pour mémoire, ont peu de documents de travail, voire pas du tout, sur Méditerranée. Il y a un dérochage, mais qui correspond en fait à la phase de montage, donc qui correspond en fait au film que l'on voit. Alors, peut-être qu'il y a eu plusieurs montages, je peux pas vous dire, mais il n'y a pas de documents qui permettent en fait de sortir aussi peut-être du mythe et... Ce qui me semble peut-être du coup intéressant pour interroger aussi Méditerranée, c'est de voir comment ça a influencé son travail. On parlait tout à l'heure de Contretemps, je pense que c'est peut-être un des films les plus exemplaires où Méditerranée constitue un espèce de point de départ un peu critique, où il remet au travail ce film-là. Parce que c'est vrai qu'on cherche à trouver... une méthode dans le montage de Méditerranée, mais on peut faire aussi l'hypothèse qu'il n'y en a pas eu. Il y a eu une forme d'intuition et que les films qu'il va faire ensuite vont essayer aussi de théoriser quelque chose qui est au travail dans Méditerranée, mais qui n'est pas encore théorisé. Et ce qui me semblait aussi assez intéressant, c'est que notamment le texte que vous écrivez dans Cinétique, des textes qui sont publiés entre 67, grosso modo, et 70 dans les cahiers Cinétique, sont dans le fond Paulet, ils sont parfois annotés, ils sont dans des documents de travail de Contretemps, de Pour Mémoire. On retrouve des citations dans le scénario de Contretemps, où il se sert de ce qu'on va dire, de l'analyse qu'on va faire de Méditerranée, pour penser une méthode de montage pour Contretemps. On peut faire les mêmes remarques pour Trois jours en Grèce, Dieu sait quoi. Et chaque fois, il trouve des variations, en fait, qui permettent là encore de remettre au travail l'association des images... des textes et des sons.
Comme quoi, la critique peut parfois servir à quelque chose.
La dernière, vous la connaissez ? Bah, vas-y ! Qu'est-ce qu'il faut faire pour capturer un apengarène ?
Je sais pas.
Se planquer derrière un arbre, imiter le bruit de la carotte. Bah, parce que les carottes, ça crie ! Ça crie pas, mais... C'est une blague?
Ah, moi j'en sais une de blague. J'ai lu chez le coiffeur cet après-midi.
Tu vas nous les rappeler longtemps avec ton coiffeur?
Mais qu'est-ce qu'il y a qui va pas?
Je crois que c'est pas là, c'est tout.
Mais si tu veux.
J'en mange pas, j'en mange pas. Logiquement, je devrais te claquer le beignet.
Mais s'il faut le faire, faut le faire.
Tu comprends, Marie? Petit A, j'ai l'air d'un con. Et petit B?
Quoi, petit B?
Petit B, j'ai encore l'air d'un con.
À la longue, on doit s'y faire.
Ben non, Marie, je peux pas.
Que je te file du fric, ça te suffit pas, non?
Non, Marie. D'autant que les cartes, pour moi, c'est comme les impôts, c'est de l'argent bête. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, je vois ce que tu veux dire, Maxime, mais je vais te dire un truc, hein. Si mon pourcentage, il te dégoûte, hein, eh ben, t'as qu'à le laisser tomber.
Mais je vais faire quoi, moi? Préfet de police, professeur à la Sorbonne?
On en reparlera sur l'herbe.
Sur l'herbe, sur quelle herbe?
Oui, parce que ma tante de Juvisy...
Quoi? Tandère?
Oui, Tandère. Elle nous a invités à passer le week-end à la campagne.
On. C'est qui on?
On, c'est Maxime et moi.
Juvisy, dis, tu m'as regardé?
Ben oui. Alors tu y vas, tu y vas pas, tu y vas pas. Ah, je les quitte, comme dirait Shakespeare, hein.
Il disait ça, Shakespeare?
Oui, il disait ça. Et tu sais ce qu'il disait encore, hein? Que tous ceux qui sont assez cons...
Quoi?
Pour préférer l'air pourri de Paris à l'air pur et frais de la Cambrousse, ils étaient tous des cons.
Ouais, hein, je te le disais, les Anglais, c'est tous des tantes.
Vous écoutez France Culture, plan large sur Jean-Daniel Paulet avec Jean-Paul Fargier, Vanessa Nicolazic et Mathieu Macheret. Alors, c'est pas exactement le même ton que l'extrait de Méditerranée qu'on avait entendu. Les voix que vous avez entendues, ce sont celles de Claude Melki, de Bernadette Lafont, de Jean-Pierre Marielle. Il y a le rire de Chantal Goya aussi dans un coin. C'est L'amour c'est gai, l'amour c'est triste. Quatrième apparition de Claude Melki dans le cinéma de Jean-Daniel Paulet après Pourvu qu'on ait l'ivresse et Gala. Épisode, il me semble, dans la saga Léon. On parlera tout à l'heure de l'acrobate. Quelle est la nature du lien qui unit Paulet et Melki avec ce personnage de Léon? On n'est pas exactement dans la relation d'un Truffaut et d'un Léo avec Antoine Doinel. C'est plus un motif, Léon, autour duquel tourne Paulet.
C'est quand même un personnage qu'il a créé, qui est quelqu'un d'un milieu modeste, mais qui est un perdant, mais qui est un gagnant quand même. Voilà. Il s'affronte constamment à des problèmes, surtout d'amour. Il arrive jamais dès le premier film, c'est un dragueur, mais qui arrive jamais au but, quoi. Paulet, a dit, bon, moi, je m'intéresse, je viens d'un milieu riche, mais je m'intéresse aussi aux gens, du peuple. Il a pas dit ça comme ça, mais
c'est un séducteur aussi, Paulet, qui s'intéresse aux gens qui n'y arrivent pas. C'est assez étonnant.
Oui, parce que ça, pour arriver, il faut des stratégies. Et lui, c'est pareil. C'est quand même un cinéaste qui a très peu arrivé. Chaque fois qu'il est arrivé, ça a été sublime, génial. Mais il faudrait parler de tous ses échecs de films, de scénarios, etc. Et toutes les stratégies qu'il a faites pour déboucher sur un film, voilà. Bon, il se donnait des défis. D'abord, Forlani. La qualité du film tient aussi au scénario et au dialogue de Forlani. Forlani, c'est quelqu'un qui est pas tombé comme ça. Il le connaît depuis presque 20 ans. Et très jeune, il est dans une bande où il y a Philippe Condroyer, Mimi Condroyer, la femme de Condroyer, qui a créé le ciné-club à la télévision. Voilà, c'est des gens qui sont dans les milieux de la télé, ça. Lui, il a beaucoup fait de télé aussi, Jean-Daniel Paulet.
Notamment comme dans Dim Dam Dom.
Voilà, dans Dim Dam Dom et tout ça. Donc c'est, Forlani, c'est une plume extraordinaire et les dialogues de ce film sont merveilleux. Lui-même, il a un petit rôle au début où il essaye un costume parce que là, Léon, il est il était au départ, c'est-à-dire un tailleur du sentier.
Alors voilà. Là, on est plutôt dans le faubourg Saint-Antoine. On est dans une, on sort très très
on
peu.
On sait pas où on est.
On est où le quartier. Et à un moment, on sort un peu dans la rue. Ouais. En tout cas, il a tourné
au faubourg Saint-Antoine.
Dans ce quartier-là, on sort très peu de l'atelier. Et on a quand même un côté très Renoir dans ce film. Il faut le dire. D'ailleurs, lui-même l'affiche en mettant Marcel Dalliot en vieux client, puisque Bernadette Lafont, dans le film, sous prétexte d'être cartomancienne, exerce le plus vieux métier du monde dans une pièce de l'atelier. Cette relation à Renoir, c'était quelque chose de fort pour Paulet, Vanessa Nicolazic?
Alors, on peut fortement imaginer que c'est un hommage. Vous parliez d'espace tout à l'heure. Et là, pour L'amour c'est gai, L'amour c'est triste, c'est vraiment un comique aussi de l'espace parce qu'il travaille sans arrêt dans la latéralité. On est quand même globalement toujours dans cet atelier-appartement.
Et travelling, oui, c'est Jean-Jacques Rochu à la caméra, ça bouge beaucoup.
Souvent, plan séquence, la séquence qu'on a entendue, c'est un plan séquence qui permet... déjà d'ouvrir et de créer un dynamisme avec les personnages. On voit bien qu'il fait du grand angle parce qu'on a, ça crée comme ça de l'espace, du rythme entre les personnages. Et à l'intérieur, il crée aussi des petits espaces pour faire des apartés entre eux. On entend tout à l'heure Max et puis Bernadette Lafont, je ne me souviens plus de son prénom.
Elle s'appelle Marie, il me semble.
Oui, Marie, c'est ça. Et la séquence dans laquelle joue Marcel Dalliot, où il meurt et puis il va ressusciter, clairement un hommage d'un travail comme ça qui met en avant en fait le corps des acteurs. C'est bien un comique quand même de décalage. Il y a un décalage entre le personnage de Léon, hein, qui est chétif, qui est naïf, qui joue comme un personnage plutôt réaliste. Voilà, il est tailleur, il fait. Et puis ces autres stéréotypes qui à côté l'écrase un petit peu, et notamment le personnage de Max,
Marielle,
qui est joué par Jean-Pierre Marielle, et qui est comme ça.
Et Bernadette Lafont. Il y a la gouaille de Marielle et de Bernadette Lafont, et il y a l'humour presque anglais du tailleur de Léon, mais ça c'est aussi l'art des répliques écrites par Forlanine.
Le malade, c'est l'œuf. Où il tombe sur la pierre, et il se casse. Où la pierre tombe sur l'œuf, et là aussi, il se casse. Il se casse.
Mais alors, de quelle lèpre on parle ? La lèpre des médecins, c'est clair. C'est l'ordre. Les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Mais pour nous, lépreux, c'est autre chose. Comme si on parlait d'une autre maladie. Maladie.
Il y en a un autre qui avait perdu tous ses doigts. Puis son mignon avait durci jusqu'au point où il pouvait planter des clous dans le mur. Avec la main, avec ce qui lui restait de main, il enfonçait des clous.
D'abord, on pensait que la lèpre était héréditaire. Mais aujourd'hui, c'est sûr que c'était faux. Il y a des preuves suffisantes que c'est contagieux. D'ailleurs, c'est une maladie à bacille. Mais écoute ça. Évidemment, la culture du bacille de la lèpre n'étant pas encore réalisée en laboratoire, il est impossible de prouver que la contagion passe bien par la transmission de ce bacille. Comment ? Mais ça se contredit. Et ça, de nouvelles recherches permettent d'espérer qu'on parviendra à clarifier le rôle d'éventuels facteurs génétiques déterminant la sensibilité à la lèpre. De nouveau ? Mais alors quoi ? Contagion ? Hérédité ? Facteurs génétiques favorables ? C'est drôle. C'est comme si ça ne voulait pas entrer dans nos catégories. Trop étroite.
La lèpre des médecins, c'est clair, c'est l'ordre. Les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Et l'ordre, c'est le titre de ce film. Et c'est ce film incroyable, magnifique, stupéfiant, qu'on regarde évidemment d'un autre œil en ce moment, dans ces temps de confinement de population entière pour cause de pandémie virale. C'est bien Jean-Daniel Paulet. C'est incroyable quand on entend d'un film à l'autre les grands écarts apparents qu'il peut y avoir. Paulet va donc filmer des lépreux longtemps confinés sur l'île grecque de Spinalonga avant... qu'une fois qu'on a pu soigner la maladie, il soit rapatrié dans un hôpital de la banlieue d'Athènes, où ils se sentent paradoxalement bien plus enfermés que dans l'île où ils étaient relégués. Encore la thématique de l'enfermement, de la relégation chez Paulet. Mais il me semble qu'avant tout, Paulet filme une parole très colérique, mais très digne en même temps, celle du fameux Raimundakis, dont le visage marque à jamais ceux qui ont la chance de voir ce film. Et surtout, il me semble, Mathieu Macheret, puisque vous nous avez rejoint, qu'il place d'une certaine manière le cinéaste devant ses responsabilités, parce qu'il va lui dire « Qu'est-ce que vous allez faire de ce que je vous donne ?»
Oui, c'est vrai. Et cette île des lépreux, petit à petit, au fur et à mesure du film, où la caméra se promène à travers les couloirs, les travées, filmant les murs lépreux aussi, cette île devient une sorte de république inversée, de république des lépreux, qui va regarder le monde des gens normaux, le monde des vivants ordinaires, et regarder cette normalité elle-même comme une maladie, comme la maladie de la civilisation occidentale, etc. Et ça, c'est un retournement absolument passionnant et bouleversant, puisque même il y a une adresse de ce personnage au spectateur et même au monde occidental, en disant, en promettant peut-être une révolte future, une révolte par l'amour, hein, qui est tout à fait bouleversante. Est-ce qu'on peut dire aussi de ce film, en effet, vous le dites très bien Antoine, c'est un film de voix, mais de voix presque dans le sens de ce dernier tour de vis de la modernité qui a été celle d'un certain cinéma français littéraire, dans le sens où il y a plusieurs voix dans le film, il y a les voix de la bande-son, on l'a entendu, qui ne sont pas un commentaire, mais des voix qui s'interrogent mutuellement, des voix qui ne savent pas exactement, qui retracent, qui refont le chemin elles aussi, et qui se posent des questions. Un peu comme les voix d'India Song, de Marguerite Duras, qui étaient des voix incertaines, hein, des voix qui ne possédaient pas en elles-mêmes un savoir surplombant. Et puis il y a la voix de ce personnage, qui est une voix elle-même lépreuse, elle-même rocailleuse, qui est un éboulement permanent et qui est la grande sidération du film. Hein, c'est plus que l'image, plus que le visage ravagé, c'est cet écroulement de la voix elle-même qui se touche. Hein. Il y a vraiment quelque chose, on pourrait dire, pour utiliser un terme un peu jargonneux, de haptique dans cette voix. Elle se touche de l'oreille et elle est vraiment fascinante.
L'expérience sidérante du cinéma de Jean-Daniel Paulet à cette époque est assez incroyable, parce que juste avant L'Ordre, il y a eu Le Sang, ce film qu'on n'a plus pu voir et qu'on peut enfin voir parce qu'il va être édité en DVD et qu'il est dans les rétrospectives intégrales, hein, qu'ils sont en ce moment un peu sur tous les écrans. Vous avez écrit dessus, Jean-Paul Fargier, parce que vous faites partie des rares personnes qui ont pu voir ce film à l'époque, c'était à la quinzaine des réalisateurs. Vous avez réécrit dessus dans plusieurs textes, dont un qui paraît dans Trafic, c'est l'expérience limite, Le Sang.
C'est encore une expérience, là, au lieu de filmer trois ou quatre acteurs dans un intérieur, ils décident de filmer une marche d'une troupe, une vingtaine de personnages qui seront pas très définis, voilà. Et là, il part aussi d'une idée de mouvement. Toujours, il faut partir des mouvements qu'on voit, soit comme vous l'avez décrit là dans l'appartement tout petit du sentier ou de Faubourg Saint-Antoine, mais bon. Et soit dans des endroits comme l'île des Lépreux, parce que ce qu'on entendait, c'était les voix ici à la radio, mais ce que Mathieu Macheret a décrit, c'est cette circulation de la caméra est frénétique, comme après il y aura une frénésie à parcourir dans un court-métrage. Les courts-métrages sont aussi importants pour Paulet. Et dans le Père Lachaise, il y a une frénésie de parcourir sans s'arrêter toutes les allées du Père Lachaise. C'est sidérant aussi. Et là, la vitesse aussi dans l'île des Lépreux, c'est extraordinaire. Bon, dans Le Sang, il va expérimenter un mouvement lent de parcours selon une ligne droite. Et au départ, l'idée, moi je lui avais entendu dire en 69, de faire un film qui serait un seul travelling, et on suivrait des acteurs qui parfois sortiraient du champ parce qu'ils iraient plus vite que la caméra et la caméra irait toujours au même rythme. C'est une idée très formelle comme ça, mais il a fait évoluer en introduisant, en plus du travelling linéaire, des arabesques, voilà, qui parcourent caméra à l'épaule. Là, c'est extraordinaire. Bon, il faudrait faire presque une émission entière sur Le Sang, parce que c'est un film qui a eu des tas de rebondissements. Et le lien avec les lépreux, c'est que à la fin du Sang, pendant qu'il est au montage du Sang, il envoie l'acteur principal du Sang sur l'île des lépreux, pas l'île, puisque l'île elle est déserte, mais à Athènes, auprès de Borne, et qui lui dit, essaye de trouver une idée pour faire un film sur les lépreux, parce qu'après je vais faire ça. Voilà. Et lui, il revient avec une idée de fiction. Mais ça marchera pas. Il faut aller au contact de la matière brute et des personnages et de Raymond Dakis, qui est sidérant. Mais tout le monde avait vu Raymond Dakis avant, y compris le chef des acteurs du Sang. Voilà.
Et juste après Raymond Dakis et l'île des Lépreux, retour à la fiction.
T'es chouette. T'es bien roulé. Ça me fait des frissons presque partout. Tes yeux sont battes. Ta peau. Alors, ça doit être quelque chose. C'est pas bon, mon baratin?
Ah, si. Mais c'est pas ça qui me fait fondre.
Mais c'est quoi, alors?
J'en sais rien, moi. C'est des mecs pas ordinaires. Tu sais, les types qui me font un baratin comme ça, j'en vois tous les jours.
Ce que j'aime, c'est les gens qui ont quelque chose de spécial. De bien à eux. Tu comprends?
Ah, j'ai rien à moi, moi.
Ah!
Ah, si, j'ai ça!
Deux tangos, sache que naître et j'aime.
Slow, quick, quick, slow, slow, quick, quick, slow, slow.
Bah là, bah, tu sais ou tu sais pas? Bah, viens. Viens, dans cette tango. Allez, la danse. Bah là, pense à l'amour. Ferme les yeux.
C'est le dernier film de la saga Léon l'Acrobate en 1976, dernière tentative aussi, il me semble, pour Jean-Daniel Paulet de faire un film sinon commercial, du moins grand public, malgré sa grande beauté. Je crois que c'est un film culte maintenant, ça sera un échec en salle à sa sortie. Et il me semble que les critiques sont souvent partagées sur Paulet, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui adorent ces films essais et dénigrent un peu ces films que certains qualifient de populistes, et puis d'autres qui n'aiment que le Paulet qui fait danser, qui libère son personnage Melky comme ça par la danse, et qui trouve quand même prétentieux un télo de tout ce qu'il fait par ailleurs. Comment s'allie ce mystère de Jean-Daniel Paulet, qui arrive à faire des films en apparence aussi dissemblables, alors que sur la forme, quand on y regarde bien, il me semble qu'il y a des mouvements précisément d'appareil qui jouent sur la variation, la répétition, qui sont un peu les mêmes. Comment est-ce qu'il lui-même pouvait théoriser ça, Jean-Paul Fargier?
Je crois qu'il cherchait pas à théoriser ces deux tendances. Il s'accomplit dans une et s'accomplit dans l'autre. Vraiment, il a un goût pour la recherche intellectuelle, les formules de cinématographie très très formelles. Il fait, on dit que c'est un poète, mais il relève de ce qu'on appelle le cinéma de poésie, et ça a été théorisé par Pasolini. Et un cinéma de poésie, c'est, contrairement au cinéma de prose, par exemple, ouais, ça se posait, c'est celui où la forme se voit et se met en avant. Et dans les deux cas, il met en avant la forme. Voilà. Dans le film sur le tango, il met en avant la recherche d'une forme, les exercices pratiques du tango, parce que ce héros qui va gagner tous les concours de tango, au départ, il ne sait pas danser le tango et il prend des leçons. Et la moitié du film, c'est les leçons de tango.
Chez Georges Erosi.
Chez Georges Erosi, où j'ai retrouvé une fois dans les mémoires d'Antoine Compagnon qu'il avait appris à danser. Alors j'ai dit, tiens.
Il a consacré même un numéro de Dim Dam Dom à Georges Erosi, voilà. grand professeur de danse de salon.
Il a repris ces gens d'un film de télé qu'il avait découvert, et ils sont aussi là très importants dans le film. Et même il a confié une théorie de la danse à la fin. Il y a une voix off tout d'un coup où c'est le professeur de danse pendant la dernière épreuve de tango qui dit: qu'est-ce que la danse? Est-ce que je peux vous apprendre à danser? Non, parce que danser, c'est l'amour qui compte et je peux pas vous apprendre à aimer, etc. Tout d'un coup, il y a de la théorie qui arrive, mais d'une façon très, très comme ça, poétique, voilà. Non, mais le lien entre les deux, c'est la mise en avant d'une forme. Ça, tous les films de Paulet, c'est évident, on la voit, la forme.
Ce film n'est pas un testament. Juste un voyage d'un an. Cette fois, c'est le tour de moi-même que j'entreprends. C'est autour de moi que je navigue. Mon voyage va durer toute une année, jour après jour, mois après mois. En voiture, clic-clac. Une par jour minimum, pendant 365 jours. photo contient le monde. Chaque photo contient le monde tout entier. Mille photos ne me donnent pas plus le monde qu'une.
Vous écoutez France Culture, plan large sur Jean-Daniel Paulet avec Jean-Paul Fargier, Vanessa Nicolazic et Mathieu Macheret. Et ce film a beau ne pas être un testament, comme on a entendu la voix de François Chateau le dire, il y ressemble tout de même diablement, puisque c'est le dernier film de Jean-Daniel Paulet, jour après jour, dernier film dirigé presque de sa tombe, pour ainsi dire, après son décès en 2004, puisque le film date de 2006. Au générique, on voit que c'est un film de Jean-Daniel Paulet réalisé par vous, Jean-Paul Fargier, mais c'est un film dont Paulet avait effectué déjà le montage sur papier avec l'aide de sa monteuse et épouse Françoise Gessler.
Voilà, c'est après qu'on ait écrit tous les deux, Paulet et moi, un scénario qui se passait en haut du Mont Ventoux. Comme il avait des problèmes de mobilité, il a dit non, j'arriverai jamais à faire ça. Et un jour, il me dit, j'ai trouvé la façon de faire le film le plus simple du monde. Je prends des photos tous les jours pendant un an, et à la fin, ça fera un film sur 4 saisons. Est-ce que tu veux faire le commentaire? Et j'ai dit, bon, oui, si tu veux que je le fasse, je le ferai. Voilà. Et il n'a pas dirigé de sa tombe, parce que il avait laissé le plan de montage, et le jour de son enterrement, d'ailleurs, sa femme, sa monteuse, Françoise Gessler, m'a dit, il faut que tu finisses le film. Bon, le CNC est d'accord pour donner de l'argent sur ce film, et il faut que tu le finisses. Voilà.
Pour une fois, parce que s'il y a eu beaucoup de films de Paulet qui n'ont pas été réalisés, c'est aussi parce qu'à une époque, le CNC n'a plus voulu de lui.
Oui, mais enfin, là, les commissions, en tout cas. Ils ont reçu le. En fait, quand j'ai fini d'apporter le texte et le mettre en place sur le scénario qui était des photos photocopiées, ils ont fait 17 exemplaires, l'ont envoyé au CNC. 8 jours après, Paulet est mort. Et David Kessler, qui vient de mourir, a appelé Françoise Gessler pour lui dire, il faut qu'on fasse ce film. Voilà. Et donc, j'ai dû présenter ce film sous mon nom. Et c'est, comme j'avais jamais fait de film de cinéma, j'avais fait une centaine de films de télé, mais ça compte pas pour le cinéma. Donc, je suis passé de la commission des premiers films. Donc, le dernier film de Paulet est un premier film.
Bah, c'est un beau passage de témoin. Ce qui est très passionnant avec ce film, c'est qu'on voit qu'un cinéaste fait toujours du cinéma. C'est-à-dire que, et y a une prémonition presque de ce film, Vanessa Nicolazic, c'est ceux d'en face, puisqu'il est question d'une jeune femme qui doit faire un montage de photographies précisément, dont certaines viennent des films de Paulet précédents. Vous avez particulièrement étudié l'écriture de ce film. Je vous cite dans l'ouvrage collectif magnifique Machine Paulet, qui vous avait confié un texte, que la méthode Paulet, c'est d'opérer comme ça par fragments, par association d'idées, de matériaux de tout genre, et notamment avec ces listes de noms, de mots qu'il va utiliser presque comme porte d'entrée dans ses films.
Oui, ce d'en face, le point de départ finalement, alors il y avait Méditerranée sans doute, et puis aussi Dieu sait quoi, c'est-à-dire que pour Dieu sait quoi déjà, pour s'approprier Ponge, il est passé par la photographie. Et il y a une très très grande activité de photographie. Alors photographie, ça permet aussi de limiter des coûts pour faire des repérages moins coûteux. Il, dans un entretien, il disait j'ai pris le parti pris des choses, je vais prendre le parti pris des gens. Et donc pour ceux d'en face, il s'est intéressé à des non plus des photos d'objets, des photos mais des photos de visages. Alors le plus souvent très connus. De reporters. Et puis parmi ces photos, effectivement, il a glissé des photos
Méditerranée,
de l'ordre. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que l'écriture a été assez longue, et le premier scénario que vous publiez dans Trafic proposait un montage très associatif avec une histoire de regard. Qui permettait de mettre en scène par le montage les photographies. Et pour des questions aussi de subvention, puisque une présentation au CNC, il y a eu aussi une écriture un peu plus classique, entre guillemets, qui a permis, malgré tout, en fait, de mettre en abîme l'écriture, c'est-à-dire de mettre en abîme son processus de création et qu'est-ce que c'était pour lui que le montage. Donc, le film nous raconte ce que c'est que de faire un film et agencer ses photographies, c'est aussi agencer des sons, puisque le film va mettre en scène un compositeur qui écrit un psaume et qui, pendant qu'on voit Linda agencer ses images, on entend l'écriture musicale au travail.
Il y a eu plusieurs collaborateurs sur ce film, oui, qu'il faut nommer. Pierre Borquer, qui a fait le premier scénario avec, exactement, lui. Mon étudiant, qui s'est tué pendant... et qui était l'assistant de Jean-Daniel Paulet, Sébastien, à qui le film est dédié. Mmh. Puis après, il y a...
Laurent Roth.
Laurent Roth. Donc, il a mis beaucoup de temps à coucher ce film. Et pour une fois, on a toutes les traces. Et là, vous avez pu les comparer. Et c'est ça qui est formidable.
Ah oui, donc on voit aussi comment, à un moment, il y a eu beaucoup de scénarios qui ont été refusés. Tunk, qui a écrit avec Pascal, ouais, Bonitzer. Les Folies Françaises avec vous.
Moi, je peux dire que j'ai même, dans le film Ceux d'en face, un jour, il me dit, je suis en panne, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que tu ne peux pas faire la critique du film comme s'il existait ? Alors, j'avais lu deux ou trois idées, comme ça, il m'avait raconté, il m'avait montré le lieu de la galerie où il est tourné, etc. Et j'ai fait une critique d'un film qui n'existait pas. Et après, il m'a dit, génial, ça me permet de redémarrer, voilà.
Merci Vanessa Nicolazic et Jean-Paul Fargier. On se quitte sur le Glock Tango composé par Antoine Duhamel pour l'Acrobate. La rétrospective des films de Jean-Daniel Paulet en copie restaurée. Puis surtout, 22 de ces films vont ressortir en salle. Ça sera à partir de mercredi prochain et bientôt en DVD. Certains sont déjà disponibles comme Méditerranée, L'Ordre et l'Acrobate. Bref, Paulet, virus ou pas, ne ratez pas ça. Hein, d'autant que le plaisir est à prolonger avec la lecture de son autobiographie, entre guillemets, La vie retrouvée de Jean-Daniel Paulet, aux éditions de L'Œil, dont on rappelle qu'elles ont été fondées en 1998, les éditions de L'Œil, pour éditer le livre de Paulet, l'entrevue qu'il avait coécrit avec Gérard Leblanc. Et puis à lire encore, admirer même, parce que c'est un magnifique livre d'art, premier ouvrage de référence sur Paulet, le livre collectif Machine Paulet, auquel vous avez contribué tous deux, Vanessa Nicolazic et Jean-Paul Fargier, fruit de 3 ans de travail des élèves de l'École supérieure des beaux-arts de Nîmes. C'est une coédition S-Bahn et les édition MF, la maison du neveu de Jean-Daniel Paulet et ex-confrère producteur à France Culture, Bastien Gallet. Je signale enfin, à propos de Paulet, le nouveau numéro de la revue Trafic. Et oui, comme disait un éminent confrère sur les réseaux sociaux, ne vous lamentez pas sur la disparition des revues de cinéma. Achetez-les. Nouveau numéro de Trafic avec votre article sur le sang, le film maudit de Paulet, Jean-Paul Fargier, ainsi que les publications de Lettres du cinéaste, hein, François Truffaut. Il y a aussi dans Trafic un texte de notre cher Marcos Uzal sur Richard Linklater, Richard au hasard babillard, ce qui me donne l'occasion de vous annoncer qu'enfin on entendra dans Plan Large la déambulation que nous avions enregistrée avec le cinéaste américain dans son exposition au Centre Pompidou. Ce sera le 18 avril. Je signale encore, en prolongement du Plan Large que nous avions consacré à l'état des lieux du cinéma français, la parution du nouveau numéro de Papier, la revue de France Culture, avec une question en couverture: quel avenir pour le cinéma français? 31 professionnels du cinéma répondent, avec en outre la retranscription du Plan Large que nous avions consacré à Robert Guédiguian. J'en profite aussi pour vous signaler que vous pouvez dès à présent, si vous êtes étudiant, candidater pour participer au jury de notre prix France Culture Cinéma. Tous les détails et la sélection sont sur le site de Plan Large. Mais pour l'heure, il est grand temps d'encore un petit supplément de réel.
Compte-moi, voilà. Compte. Hey, le valet 10.
Um homem com um termômetro no chapéu e o meu irmão Vicente e o meu pai estava ali, não estando lá.
É a taça para assurar, mano.
Sobre o quê?
Do sonho que eu tive.
Não vais entregar isto. Dizes que não sonhaste bem. Está bem?
Só se me contares tudo.
Foi há muito tempo. Era uma das brincadeiras do teu irmão. Quando saímos da escola, vínhamos sempre por este caminho. Pegava-me sustos se eu não lhe desse um beijo. Se não... Como é que era? Esta árvore...
Sozinho, não tinhas medo.
Le portugais Pedro Costa, en attendant enfin, paraît-il, c'est très prochain, la sortie en salle de ses deux derniers films, toujours inédits en France, Cavallo Dinheiro et Vitalina Varela, film qui a quand même eu le Léopard d'Or au dernier festival de Locarno. Cette œuvre de Pedro Costa, initiée en 1989 avec le film dont on vient d'entendre un extrait et qui porte, figurez-vous, le même titre que le film maudit de Jean-Daniel Paulet, Au sangoué, le sang, mais qui a pris cette œuvre une dimension particulièrement envoûtante et bouleversante il y a 20 ans déjà, quand avec Dans la chambre de Wanda, Pedro Costa a commencé son compagnonnage avec les habitants d'un quartier déshérité, celui de Fontenhas, en périphérie de Lisbonne, Mathieu Macheret.
Oui, c'est une aventure de cinéma extraordinaire et en tout cas que Pedro Costa a abordé quasiment seul, hein, assumant presque à lui tout seul les tâches du tournage et la vie avec ses habitants. On pourrait se demander si ce qu'il y a de plus précieux au cinéma, ce ne serait pas les grands solitaires. Mais comme le disait le philosophe Gilles Deleuze à propos de Jean-Luc Godard, d'une solitude extraordinairement peuplée. Et c'est le cas de Pedro Costa qui a bâti une œuvre parcimonieuse, c'est vrai, 9 longs métrages en 30 ans, mais surtout d'une rigueur extraordinaire, d'une beauté inouïe, d'une noirceur d'encre, cherchant à faire tenir dans un même geste presque trop humain, une exigence à la fois esthétique, éthique et politique, ce qui est beaucoup de choses en même temps. Issu d'une jeune génération de cinéastes portugais apparus à l'orée des années 90, comme Teresa Vilaverde ou João Canijo, son cinéma s'est fondé en résistance à l'accélération toujours plus poussée des images, à l'amnésie des flux d'informations, pour la reconquête d'un regard ancré, solidement arrimé aux mondes et aux choses, et d'une parole qui ne s'agissait pas de découper au hachoir. Au fil des films, le cinéma de Pedro Costa s'est vu aimanté par une redéfinition toujours plus poussée des rapports entre fiction et documentaire qui sont devenus petit à petit des catégories pour lui inopérantes, opérant un nouveau partage plus significatif cette fois entre le présent et le mythe, qui sont un peu les vrais axes de son cinéma. Son premier long métrage, on l'a entendu, titre imparable, Le sang, était un sublime cauchemar d'amour et de secret dans un noir et blanc au contraste primitif qui voguait entre les souvenirs troubles de Murnau, Franju ou Jacques Tourneur, trois cinéastes des nuits et des conspirations des conspirations invisibles que Pedro Costa aimait beaucoup. Et c'est toutefois à partir du film suivant, le magnifique Casa de Lava, en 1994, son second long métrage, que son œuvre va prendre un tour inattendu. Costa est parti tourner au Cap-Vert, ancienne colonie portugaise, où il va découvrir là-bas une population, des récits, des visages qui ne le quitteront plus, qui ne quitteront plus son cinéma. Et surtout, à travers eux, l'envers indigne et déplorable de l'histoire portugaise, celle des descendants d'esclaves, déshérités et laissés pour compte, dont certains font aujourd'hui le grand saut vers la métropole, ses faubourgs et bidonvilles, pour venir y servir de main-d'œuvre bon marché, dans un rapport de force économique qui perpétue insidieusement la domination coloniale. Et c'est dès lors, en effet, dans ces faubourgs, et notamment ceux du bidonville de Fontenhas à Lisbonne, et son dédale de baraquements de fortune, où se concentrent les ouvriers capverdiens, que le cinéaste a installé durablement sa caméra, vivant parmi ses habitants, partageant leur quotidien et leurs expériences, auxquelles se mêle indistinctement le travail du cinéma.
Et oui, Vitalina Varal. E mi chi levantava il giorno naquela notte. Eu estava menininha na chombone de mangue, no primeiro paróquia. Me vem de busca paz a cunha burro frente. De repente, um caixa aberto e se bate e entra um dentro do outro. Mate 30 arquem. Cabeça rinca. Tripa, romba, perna, braço, pé, mão, sapa, pila, tudo. Eu saí da igreja espantado. bukori butumba bukaina logo de sangue bonita boa viagem. Nordeus estava à frente de nós tudo.
Boa viagem. Nordeus estava à frente.
Diz que a gente só pedia a benção de pulmão nas suas cabeças.
Eu nunca pude batizar mais ninguém. Eu nunca pude rezar meus sabas.
O negro aquele batido. Manda para o padre Jufino. Vou largar aquele desgraçado na estrada de Tarrafalho. Eu nunca catatiga.
On a entendu Vitalina Varela, le dernier des cinq volets de la saga commencée à Fontainhas avec Ossos en 1997 et poursuivie avec ses habitants, devenus pour certains des figures récurrentes du cinéma de Pedro Costa, tel le charismatique Ventura qu'on a entendu ici, ancien ouvrier aux allures de prophète ou de devin des bas-fonds, qui traîne sa silhouette hallucinée et son regard intense et sa mémoire antédiluvienne d'un film à l'autre. Dans cette somptueuse série, le hiératisme des figures, le registre incantatoire des paroles invente une incarnation quasi mythologique des déshérités, mais aussi des marginaux ou des junkies dans la chambre de Vanda, qui leur restitue par le cinéma une grandeur et une dignité fabuleuses, celle des Piti ou autres créatures extraordinaires. Mais le plus stupéfiant, c'est encore la façon dont Pedro Costa sculpte ces images en clair-obscur somptueux, tirant des ressources d'un numérique parfois assez primitif, le tire ce numérique vers le geste des peintres lumiéristes comme le Caravage, Rembrandt ou Georges de la Tour. Car au cœur des ténèbres, de la misère et de l'oubli, brûle un foyer incandescent, le cœur crépitant d'une révolte et d'un amour qui sont ceux du cinéma de Pedro Costa et qui, on l'espère, ne s'éteindront jamais.
Merci Mathieu Macheret. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Olivier Dupré. L'émission a été préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Romain Masson. La semaine prochaine, on chantera Sous la pluie, plan large sur Stanley Donen à l'occasion de la superbe édition en Blu-ray et DVD de son Voyage à deux. Nous serons avec Fanny Beuret, l'autrice de That's Entertainment et évidemment incontournable quand il s'agit de comédie musicale Entebbin, qui en fin d'émission nous parlera du Avanti de Billy Wilder. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, toute une vie, présentée par Christine Bernard.
Grita.